C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 107 du 10 mars 2025. Au sommaire, un nouveau premier ministre canadien et une campagne électorale se préparent sur fond de guerre économique et de guerre culturelle, un grand défi pour les enjeux queer. Comment concevoir des aménagements urbains plus inclusifs pour nos communautés? La DoxyPep, un traitement prophylactique des infections transmises sexuellement, ça marche vraiment? Et la Hongrie veut interdire la marche des fiertés à Budapest? Et on va parler de Grindr. Qu'est-ce que Grindr a fait de nous, un homme, des hommes queer et nos sexualités?
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot.
Je tiens à vous remercier, chez les libéraux, de m'avoir accordé le plus grand honneur qui soit, celui de servir comme votre nouveau chef. Merci.
Politique fédérale et diversité, avec Alexandre Duval.
Eh oui, hein, on retourne en politique fédérale aujourd'hui parce que hier, Mark Carney est devenu le nouveau chef du Parti libéral du Canada en remportant facilement la course pour succéder à Justin Trudeau. Il devrait d'ailleurs prendre la relève à titre de premier ministre du pays au cours des prochains jours. À quel défi Mark Carney sera-t-il confronté en matière d'enjeux queer, lui qui a un profil très économique et qui arrive en politique par la grande porte, mais sans expérience préalable? Et pour en discuter, donc, on reçoit Alexandre Duval, qui est enseignant en sciences politiques au cégep Garneau à Québec. Allô Alexandre, ça va bien?
Salut Denis Martin, ça va bien?
Oui, ça va bien. Alexandre, d'abord, on n'a pas entendu M. Carney aborder les enjeux queer hier lors de son discours de victoire.
Non, pas du tout. Pas un mot là-dessus, Denis Martin. Là, un discours d'à peu près une trentaine de minutes, je l'ai écouté en entier. Puis essentiellement, il nous a parlé d'économie, il nous a parlé de l'importance de rester unis face aux tarifs douaniers que Donald Trump veut mettre en place, face aux velléités de Donald Trump aussi sur le territoire canadien. Mais je vous dirais que Mark Carney, il n'a pas le choix vraiment actuellement de se concentrer sur ces enjeux-là, sur ces menaces-là qui viennent des États-Unis. Hier soir, il a effleuré un petit peu là, les notions de valeurs canadiennes, de culture, de façon de vivre au Canada, mais vraiment à peine là. Donc, c'est pas surprenant qu'il ne soit pas rendu à parler d'enjeux queer dans son discours, d'autant plus qu'il n'a pas été question d'enjeux queer non plus durant la course à la direction du Parti libéral. Alors, c'était un peu écrit dans le ciel là, qu'il n'allait pas passer de temps là-dessus hier, parce que dans le contexte actuel, Denis Martin, ça aurait pu donner l'impression qu'il est un petit peu décalé par rapport aux enjeux économiques et politiques. Ça aurait pu nuire aussi à sa tentative là, de se distancer au moins en partie du bilan de Justin Trudeau pour essayer de donner un nouveau souffle à la marque libérale qui souffre un petit peu actuellement au Canada. Donc, Mark Carney, là, il faut comprendre dans quelle posture il se trouve actuellement. Il est en mission pour montrer qu'il prend la pleine mesure du défi qui l'attend. Il est en mission pour montrer que c'est le bon leader pour affronter Donald Trump, qui peut faire face au président américain, qui peut gérer l'incertitude, qui est capable de donner une direction au Canada dans ce conflit-là. Mais j'ai envie de dire que les enjeux queer pourraient très bien et très vite revenir dans le débat public, Denis Martin.
Ah oui?
Parce que il y aura prochainement des élections fédérales, on vient de le dire. On ne sait pas quand ce sera déclenché, mais j'ai envie de vous dire que ça va être très bientôt. Et je vous dis ça parce que c'est loin d'être gagné pour Mark Carney face au Parti conservateur de Pierre Poilievre. Et il y a fort à parier que le Parti libéral va vouloir essayer de tirer profit de la situation actuelle avec les États-Unis en utilisant la frustration qui existe ici au Canada envers Donald Trump pour essayer de nuire à la crédibilité de Pierre Poilievre. Je m'explique. Il y a fort à parier que le Parti libéral va essayer de faire des parallèles entre Donald Trump et Pierre Poilievre pour essayer de décrire M. Poilievre un peu comme un émule de Donald Trump au Canada. Puis là-dessus, Ben, les déclarations passées et les déclarations récentes de M. Poilievre au sujet des personnes trans, notamment, ça pourrait apporter de l'eau au moulin des libéraux.
Oui, parce qu'en janvier dernier, hein, Pierre Poilievre disait qu'effectivement, il ne connaissait que deux genres, le masculin et le féminin, et qu'un gouvernement Poilievre mettrait de côté les enjeux liés à l'identité sexuelle.
Oui, puis on va se rappeler, Denis Martin, que Pierre Poilievre a fait cette déclaration-là tout de suite après que Donald Trump ait signé un décret présidentiel pour confirmer que maintenant, aux États-Unis, on ne reconnaît que deux sexes à la naissance, le masculin et le féminin. Puis les documents officiels, comme les passeports, ben, ne peuvent plus faire mention de l'identité de genre. Alors là, c'est peut-être une carte dans la manche du Parti libéral. C'est encore trop tôt pour savoir si Mark Carney va essayer d'exploiter ça pour nuire à l'image de M. Poilievre, mais c'est parce qu'il y a d'autres parallèles qui pourraient être faits aussi, Denis Martin. Entre autres, Donald Trump a signé un décret pour interdire la présence de filles et de femmes trans dans des compétitions sportives féminines. Ça fait pas très longtemps, il a fait ça tout de suite après être entré en poste à la Maison-Blanche. Mais Pierre Poilievre a déjà dit dans le passé que lui aussi, il était opposé à la présence de femmes trans dans le sport féminin. C'est d'ailleurs une position officielle du Parti conservateur qui a été adoptée dans un congrès. Autre parallèle, Donald Trump a signé un décret pour restreindre l'accès aux soins d'affirmation de genre aux États-Unis pour les mineurs. Mais Pierre Poilievre, il a déjà dit qu'il s'opposait aux bloqueurs de puberté pour les mineurs. Alors, vous voyez, quand on sait que les campagnes électorales, aujourd'hui, ça tourne beaucoup autour des chefs, autour de l'image des chefs. Quand on sait que les campagnes électorales, ça donne rarement lieu à des grands débats de fond, mais c'est plutôt de grandes opérations de communication politique là, pour séduire l'électorat, ben, Mark Carney, il a un axe de communication qu'il pourrait vouloir exploiter sur les enjeux queer. Est-ce que ça va devenir un vrai enjeu de campagne? C'est-à-dire, est-ce qu'on va en faire des promesses électorales? Est-ce qu'on va en faire des engagements? Est-ce que ça va se retrouver dans les plateformes des partis politiques? Il faudra voir qu'est-ce que les partis politiques sortiront. Mais sur le plan des communications, là, juste la joute, qu'est-ce qui va se dire pendant la campagne, ça pourrait amener les différents partis politiques à essayer de se positionner sur les enjeux queer par rapport à Donald Trump pour tenter de peinturer leurs adversaires dans un coin. Donc ça pourrait arriver à M. Poilievre. Puis j'ai envie de vous dire que déjà hier soir, quand Mark Carney a gagné la course à la direction, on a eu un aperçu de ça parce qu'il y a une militante libérale qui a un enfant non binaire qui s'est confiée à Radio-Canada en disant qu'elle avait peur de Pierre Poilievre, parce que selon elle, Pierre Poilievre est trop aligné sur Donald Trump. Alors, si ça se retrouve dans les médias aujourd'hui, vous vous doutez bien que le Parti libéral du Canada est très au courant que c'est un axe de communication qui pourrait être payant.
Mais c'est pas un couteau à double tranchant, ça, pour Mark Carney, de s'aventurer sur cet axe de communication?
Ben, c'est sûr que là, c'est un terrain qui est un peu miné. Ça pourrait potentiellement être. C'est-à-dire qu'il. Il devra probablement en faire un usage restreint, ou en tout cas un usage intelligent s'il décide d'aller là, parce que ici aussi au Canada, là, on a un vent de face en matière de diversité sexuelle puis d'identité de genre. Je vous apprends rien. Vous avez vu ce qui s'est passé en Alberta, des projets de loi qui ont été adoptés pour restreindre l'accès aux soins d'affirmation de genre, pour obliger le consentement parental pour les jeunes qui veulent utiliser un pronom différent à l'école. Ça veut dire que dans les provinces canadiennes, là, Denis Martin, entre autres en Alberta puis en Saskatchewan, ben, M. Poilievre, il a des alliés, et des alliés quand même influents. Je pense entre autres à la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, qui a une relation de, disons, une certaine proximité avec Donald Trump. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une partie considérable, une partie significative de l'opinion publique canadienne qui est d'accord avec les initiatives conservatrices en matière de diversité sexuelle et d'identité de genre. Faut pas oublier ça non plus. Donc, d'exploiter les ressemblances potentielles entre les discours de M. Trump et M. Poilievre, ça pourrait peut-être rebuter certains électeurs qui auraient pu dire « Hey, Mark Carney, sur le plan économique, c'est peut-être le gars qu'il nous faut, mais oh, là, il nous parle d'enjeux queer. Je suis pas sûr que j'ai envie d'entendre parler de ça. » Donc, il y aura un jeu d'équilibriste là à jouer dans les prochaines semaines pour Mark Carney s'il décide d'aller dans cette direction-là.
Alors, ça va être à suivre, la campagne électorale qui s'en vient probablement bientôt. Et puis, il y a un livre, oui, bientôt, je pense que ça va être assez rapidement.
Ben, j'ai pas de boule de cristal, là, Denis Martin, mais tout le monde veut que ça se fasse le plus vite possible. Mark Carney lui-même a envoyé des signaux à l'effet que il perdrait probablement pas trop de temps. Là, les sondages sont pas trop mauvais pour les libéraux non plus. Donc, hein? Des fois, quand la vague passe, on a envie de surfer dessus. C'est peut-être ça qui va arriver.
On va prendre un petit 30 secondes pour annoncer que tu publies un livre.
Oui, Oui, ben mon Dieu, tu me prends par
Ah oui,
surprise.
je...
Oui, écoute, il est à l'imprimerie, un livre qui est un essai politique, en fait, là, qui parle justement d'électoralisme, donc cette tendance parfois qu'ont les partis politiques à prioriser leurs intérêts politiques, leurs intérêts électoraux au-delà des intérêts des citoyens et citoyennes, de la population. Donc, un essai politique qui va paraître le 8 avril aux éditions Somme Toute, puis ça me fera plaisir de t'en reparler.
Qui
C'est un beau projet
s'intitule, comment
que...
est-ce qu'il s'appelle ton livre?
Obsession, élection. Comment l'électoralisme affaiblit nos démocraties. Donc, je pense que, hélas, ça s'inscrit un peu dans l'air du temps.
Dans l'air du temps. Merci beaucoup, Alexandre Duval. On se reparle très, très bientôt.
Salut, Denis Martin. Bye-bye.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Quel est le lien entre l'environnement bâti et la diversité sexuelle et de genre? Oui, l'architecture n'est pas qu'une question de plans, de briques et de ciment, et plusieurs architectes ici et ailleurs s'intéressent à la question. Et ça ne date pas d'hier, l'étude de ces liens entre l'environnement bâti et les communautés queer remonte aux années 80. Pourtant, en 2025, l'impact de ces réflexions sur la création d'environnements urbains et architecturaux plus inclusifs reste somme toute limité. Pour en discuter, Olivier Valeyrand est professeur agréé de la Faculté d'aménagement à l'École de design à l'Université de Montréal. Bienvenue à l'émission.
Bonjour.
Alors, à chaque fois qu'on a un nouvel invité, on lui demande quel pronom et accord il utilise. Alors, tous les accords et les pronoms masculins?
Oui, exactement. C'est
D'accord.
lui.
Alors, comment définir la notion d'espace queer dans un contexte, architectural et urbain?
C'est une excellente question. C'est une question qui est assez difficile à répondre. Là, il y a des gens qui vont l'approcher plus d'un point de vue formel, des choix de couleurs, des choix d'images. Pour moi, ce qui est particulièrement intéressant, c'est la notion de l'utilisation de l'espace, de penser à concevoir des lieux qui permettent une plus grande diversité d'usages, qui reconnaissent des usages qui sont hors normes. Souvent, on va en parler. Donc, justement, j'entendais dans l'introduction l'idée de, on en parle depuis les années 80. C'était souvent une réflexion qui était historique sur l'utilisation passée de certains lieux. Donc, par exemple, parler de bars gays, de lieux de crouse, de regarder les maisons de personnes gays, lesbiennes et d'essayer d'identifier certaines idées autour de ça. Mais pour moi, il y a aussi une réflexion qui est très importante sur, par exemple, l'accès à des lieux genrés comme les toilettes publiques, donc c'est un sujet dont on entend quand même assez souvent, mais aussi la notion de patrimoine, d'identité liée à un quartier, donc quelque chose comme le village gay à Montréal. Si on parle de quartier chinois, on parle de quartier ethnoculturel, ben, c'est un peu la même idée de venir avoir des éléments symboliques dans l'architecture et la ville qui permettent à certaines communautés, comme les communautés LGBTQ, de se retrouver. Puis si on parle juste à l'exemple de l'importance que Stonewall, donc un bar, a eu dans l'histoire des communautés LGBTQ, bien on comprend cette relation entre l'architecture et l'identité.
Alors, quels sont les principaux obstacles à la création d'espaces véritablement inclusifs pour la diversité sexuelle et de genre?
Un des premiers obstacles, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup. Dans les écoles d'architecture, dans les écoles de design, dans les écoles d'urbanisme, c'est vraiment pas un sujet qui est particulièrement développé. On est très peu de professeurs dans le monde à s'intéresser à ça. Là, moi, je fais partie d'un réseau à travers le monde, puis on est peut-être une trentaine qui travaille là-dessus, c'est nos recherches. Puis c'est encore plus le cas dans les milieux francophones. Là. Il y a vraiment, vraiment peu de gens, mais ceci étant dit, il y a quand même beaucoup d'intérêt de la part des étudiants. Donc, je pense qu'il y a une relève qui s'intéresse à créer des lieux plus inclusifs. Mais comme pour toute forme d'homophobie, de transphobie, c'est beaucoup lié à une peur de l'inconnu. Hein. De faire des transformations dans l'espace public, faire des transformations dans l'architecture, ça implique un grand pas, ça implique une transformation. Puis, on peut avoir peur de ça. Donc, ça, je pense que c'est un des obstacles. L'autre obstacle, c'est qu'il y a quand même des tensions dans la notion de sécurité, d'espace sécuritaire. Par exemple, si vous demandez à plein de monde de vous dire c'est quoi un espace où vous êtes en sécurité, bien, on va vous répondre des choses très différentes. Puis parfois, c'est en tension envers l'autre. Donc, par exemple, si je pense, je vous donne un exemple, des personnes en situation d'itinérance, LGBTQ, par exemple, qui voudraient avoir de l'intimité, là, un couple de jeunes LGBTQ qui veulent avoir de l'intimité, mais ils vont peut-être dire, OK, pour moi, un parc, c'est un lieu sécuritaire où je peux embrasser mon chum ou ma blonde, mais pour une autre personne, ben, de venir marcher dans le parc, puis tout à coup d'avoir des gens qui s'embrassent, ça peut représenter quelque chose qui est qui fait peur
Oui,
dans cette
c'est sûr.
notion-là. Même chose autour des toilettes publiques,
Oui.
de dire, ben, OK, j'ai des toilettes non genrées, ben, c'est plus sécuritaire pour certaines personnes, mais pour d'autres, par exemple, une mère va pouvoir dire, ah, ben, je ne veux pas que mes enfants se retrouvent avec toutes sortes d'autres personnes. Donc, c'est toujours cette notion de gérer les besoins différents de différentes personnes qui créent, entre autres, un de ces obstacles-là.
Comment expliquer là, que ces réflexions-là ont eu un impact limité? Ça fait quand même un bout de temps que ça existe. Est-ce que c'est une question de volonté politique? Est-ce que c'est une question de financement, de méconnaissance? On en a un petit peu parlé au sujet là, de ce milieu architectural.
Ben, c'est ça. Une des raisons, je pense, c'est qu'il y a peu de monde, même si on dit que ça fait plusieurs décennies qu'on en parle, il y a quand même peu de monde qui en parle. Mais l'autre notion, c'est des projets architecturaux, des projets urbains, ça demande beaucoup d'argent. Juste n'importe qui construit une maison se rend compte que rapidement, ça coûte de l'argent. Donc, quand on parle d'infrastructures publiques, de bâtiments publics, on est dans des très, très, très gros moyens. C'est des projets qui prennent du temps. Donc, ça peut être difficile, mais ce n'est pas impossible de prendre des risques, d'explorer des solutions innovantes, d'explorer des choses qu'on n'a pas faites avant. Mais ces changements-là prennent beaucoup de temps. Puis c'est pas juste le cas pour les espaces queer, les espaces qui s'adressent à des personnes LGBTQ. C'est de façon générale, les transformations dans l'architecture prennent du temps.
Oui, on a manqué la fin de la réponse. J'espère qu'on n'a pas un problème de son. Juste pour conclure, est-ce qu'on a des exemples de projets réussis qui incarnent les principes d'inclusivité?
Oui, ben en fait, je parlais au début de toilettes publiques. Il y a des exemples un peu partout dans le monde autour de la dernière décennie qui ont exploré des toilettes plus inclusives. Il y a par exemple l'Université Gallaudet aux États-Unis, qui est une université qui est pour les personnes sourdes-muettes. Donc, qui avait à cœur un désir d'inclusivité. Donc, ils l'ont fait aussi dans des toilettes non genrées. Donc, ils ont testé ça. Ça fonctionne super bien. Concordia, ici à Montréal, a fait la même chose, a exploré plusieurs exemples de toilettes pour régler ça. Un autre exemple que j'aime bien, c'est la Friends of Ruby Home à Toronto, qui est une résidence pour jeunes LGBTQ à risque d'itinérance ou en itinérance. Donc là, il y a des changements dans les formes, l'organisation des espaces, parce que souvent les refuges pour personnes itinérantes sont des espaces genrés. Donc, il y a des jeunes non-binaires ou trans qui vont avoir de la misère à se retrouver là-dedans. Donc, on a fait ces changements-là, mais aussi dans la symbolique de l'espace dans la ville. Donc, la maison est clairement identifiée comme s'adressant à la communauté LGBTQ. Donc, on vient aussi rendre visible la communauté LGBTQ. Autre exemple, je parlais au début du patrimoine. Donc, à San Francisco, il y a quelques années, il y a eu toute une reconnaissance du patrimoine LGBTQ comme étant un patrimoine de valeur. Donc, il y a eu une étude de ce patrimoine-là, il y a eu une représentation de ça. Le National Park Service aux États-Unis a suivi. Donc, il y a eu toute une reconnaissance de quartiers LGBTQ historiques et ce type de choses-là. Mais je donne cet exemple-là aussi parce que la semaine dernière, sur le site du National Park Service, on a tout à coup effacé le TQ de LGBTQ.
Oui, tout
Donc,
à
pour
fait.
dire aussi que même s'il y a des projets réussis, il y a des améliorations qui sont faites, il y a de la reconnaissance de l'espace queer, on peut rapidement retourner en arrière. Puis ça, je pense que c'est un des gros enjeux aussi en ce moment en termes de défis. C'est si la société en général a peut-être des reculs, ben, qu'est-ce que ça va faire sur les espaces queer qui, déjà dans des conditions où la société est plus ouverte, c'est difficile d'amener cette inclusivité-là dans l'espace quand on a une société qui a des reculs ou qui est un peu plus oppressante à certains moments, ben, ça va être encore plus difficile de voir ce type de choses.
On a certainement l'occasion, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup à nouveau, Olivier Valera.
Merci pour l'invitation.
Aux petits soins, notre chronique santé.
Salut, Gengis.
Salut, Denis Martin, ça va bien?
Ça va très bien, ça va très bien. Alors, j'ai toujours notre infirmier préféré.
Ah, c'est gentil, merci.
Alors, on va parler d'un sujet, c'est pas nouveau, mais c'est important d'en parler, puis de voir où ce qu'on en est rendu. La doxypep, ça mange quoi en hiver, comme dirait l'autre?
C'est des antibiotiques qui peuvent être pris dans le fond aux besoins lors de relations sexuelles non protégées, soit après les rapports sexuels. C'est pas quelque chose de nouveau, non, mais il y a beaucoup de questions par rapport à la clientèle. Pourquoi mon médecin me le prescrit? Pourquoi il me le prescrit pas? Pourquoi que mon partenaire en a, puis moi, j'en ai pas? Ouais,
alors, la doxycycline, on prend ça pour éviter d'attraper quel ITS?
Dans la littérature, c'est dans le fond, la doxycycline protège contre... Ben, dans le fond, c'est un traitement contre la syphilis puis la chlamydia.
Oui.
Donc, si elle est prise de façon en prévention après les rapports sexuels, soit post-exposition, ça peut quand même prévenir de façon significative l'infection à la syphilis et à la chlamydia.
Ah oui?
La gonorrhée, il y a des statistiques qui sont disponibles sur le site internet Cathy. Elle serait moins efficace parce que, dans le fond, pour la gonorrhée, il y a des souches qui sont résistantes à la doxycycline. On a un problème avec la gonorrhée, là. On a des souches de gonorrhée qui sont résistante à plusieurs ouais. antibiotiques. Ouais.
Donc, c'est quoi la proportion, ce qu'on peut dire? Parce que c'est pas à 100% quand même.
Non, mais écoute, il y a 4 grandes études là, qui sont relevées sur le site Cathy. Une sous-étude qui s'appelle Hypergay HIV PrEP. 232 personnes randomisées dans l'étude. La moitié prennent la doxypep, l'autre moitié ne la prennent pas. On constate toutes TSS confondues, ça veut dire qu'ils ont inclus la gonorrhée, qu'il y a des souches résistantes aux antibiotiques, que ça faisait chuter presque que de la moitié,
quand même.
Les infections aux ITSS. Puis quand on se rapporte à la chlamydia, on parle d'une efficacité à 70 %. C'est quand même très, très bien. 73 % pour la syphilis. La doxycycline, qu'on peut prendre en doxypep, c'est 2 comprimés de 100 mg, soit 200 mg qu'on prend par la bouche après les rapports sexuels non protégés jusqu'à 72 heures après l'acte. Ce qui peut être efficace ou rassurant chez les utilisateurs de drogues injectables, chez je pense à nos escortes, à nos travailleurs du sexe aussi, plus à nos producteurs de contenu pour adultes, pour lesquels ça peut être une excellente barrière.
Donc, on pose la question, pourquoi certains ou certaines se le font prescrire et d'autres non?
C'est je dirais géométrie variable médicale, mais sur le site Cathy, il y a une petite phrase qui dit « Il est possible que certains professionnels ne connaissent pas ces traitements » ou les désapprouve. Il y a
encore un jugement moral.
Oui, un jugement médical qui revient, qui est là, qui est présent. Puis, tu sais, dans le fond, si vous êtes une personne issue de la communauté, et puis là, sur le site Cathy, ils l'ont modifié, c'est la communauté GBARSA.
Oui.
Ça se peut-tu?
Gay, bisexuel, homme
et des rapports sexuels avec d'autres hommes. Si vous êtes un homme qui a des rapports sexuels avec d'autres hommes, un homme biologique, disons ça comme ça, pour faciliter la chose, puis que vous avez eu une ITSS bactérienne, soit une chlamydia, une syphilis ou une gonorrhée durant la dernière année, Santé Canada n'a pas émis d'indication, mais la British Columbia Center Disease Control en Colombie-Britannique ont émis une ligne directrice par rapport là-dessus. Il y a un énoncé, en fait, c'est pas une ligne directrice, c'est un énoncé qui dit qu'un homme qui a des rapports sexuels avec d'autres hommes, qui a contracté une TSS bactérienne au cours de la dernière année, peut se faire prescrire la doxypep. Quand on se rapporte un peu, j'étais allé faire le tour des sites internet de toutes les cliniques médicales LGBT du centre Entreville. Il y a une clinique qui dit la doxypep peut être en usage non approuvé. Ça veut dire que, dans le fond, c'est selon le gros bon sens du clinicien qui le prescrit. T'sais. Je me souviens d'une clinique dans laquelle j'ai travaillé. J'avais un patient que je voyais à tous les mois. Ben, à tous les mois, il était positif à une gonorrhée, une chlamydia ou une syphilis. Là, il avait accès à moi, mettons un infirmier avec son équipe médicale, mais un patient qui n'a pas accès au condom ou qui ne veut pas emporter ou qui prend trop de drogue ou qui peut pas, qui n'a pas ses facultés mentales pour se protéger autrement, je pense que ça devient une bonne solution de rechange dans le sens où, Denis Martin, il y a peut-être un jugement moral là-dessus, mais on est 8,5 milliards d'individus sur la planète, puis c'est pas parce que les gens se protègent. Hein. Là, on est surpeuplé parce que les gens se protègent pas. Donc, que ce soit la communauté gay ou la communauté hétéro, ça se protège pas plus.
Je vais te reprendre parce que je me rappelle le nom ne me revient pas, mais d'une docteure qui était en santé publique puis qui me disait quelqu'un qui prend la PrEP, la prophylaxie pré-exposition là, contre le VIH, se protège. Et quelqu'un qui prend la doxypep se protège. C'est une stratégie, du moins.
Bien, c'est une barrière chimique. Ouais. C'est une forme de protection chimique. Dans le fond, moi, le condom, je le vois comme une forme de protection physique.
Ouais.
Puis là où il y a qui manque beaucoup d'éducation par rapport au condom, c'est les types de lubrifiants que les gens vont utiliser. T'sais, à court de lubrifiants, la margarine, l'huile d'olive, la vaseline, tout ce qu'on peut retrouver un peu dans notre frigidaire ou dans notre pharmacie sont des dissolvants à latex.
Oh.
Fait que le condom va péter. Fait que, tu sais, ce qui revient beaucoup dans le discours, c'est j'ai beau mettre un condom, mais le condom pète tout le temps. Oui, mais il pète parce que c'est pas parce que c'est parce que les mauvais lubrifiants, les mauvais outils sont utilisés, tu sais.
Donc le beurre, c'est pas toujours très bon, la margarine, non, on commence pas.
Non, mais si vous voulez faire un essai à la maison pour l'expliquer à des plus jeunes que vous, si vous prenez un condom, vous le soufflez comme une balloune, prenez de la vaseline, de l'huile à bébé ou toute autre chose très glissante qu'on peut trouver dans notre pharmacie ou dans notre armoire à cuisine, l'huile d'olive aussi, puis qu'on en met sur le condom, puis qu'on frotte sur un condom qui est gonflé comme un ballon, le condom éclate en quelques dizaines de secondes.
Okay. Donc, la doxypep, c'est un bon outil, c'est une bonne stratégie?
Oui, c'est sûr que quand on regarde les études, là, on parlait de 70% pour la chlamydia, 73% pour la syphilis. D'autres études plus poussées avec plus de participants font même état de 87% de protection contre la syphilis, 88% de protection contre la chlamydia. Une autre étude d'Oxivac, 79% contre la syphilis, 89% contre la chlamydia. C'est sûr qu'on est dans une ère où on essaie d'alléger les professionnels de la santé, les raisons de consultation. T'sais, moi, je pense que ce genre de stratégie-là devrait être. Les pharmaciens devraient être capables de le prescrire. Ça peut littéralement éliminer des consultations médicales. Il y a eu une étude chez des femmes au Kenya. L'étude s'est révélée peu concluante. C'est vraiment dommage pour la population hétérosexuelle. Ils pensent que les femmes n'ont pas bien pris leur traitement post-relation sexuelle ou autre, peut-être qu'il y avait moins d'incidence TSS dans la région. J'ai pas eu accès aux détails du pourquoi que l'étude était moins concluante chez les femmes. C'est sûr qu'il faut qu'on se rappelle que, tu sais, dans le fond, en ce moment, on l'utilise. Il y a des médecins qui sont moins... il y a un jugement de valeur morale, mais reste qu'il y a quand même deux choses. Tu sais, en ce moment, on est chanceux parce qu'on n'a pas de résistance connue à la doxycline chez la syphilis et la chlamydia, pour le moment, fait que ça va bien. Puis une surutilisation de doxycline peut affecter le microbiote sain de notre digestion.
Gengis Grenier, merci beaucoup.
À la prochaine.
Et nous, en deuxième partie, on va parler d'un autre géant des États-Unis de la technologie. On va parler de Grindr, comment ça a changé nos vies. Et on va parler aussi du premier ministre hongrois qui continue sa guerre contre les communautés de la diversité sexuelle et de genre.
Écoutez l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Transatlant Queer, des nouvelles d'outre-mer.
Allô Christophe Gérard à Paris, comment ça va?
Ça va bien, merci, toi?
Oui, ça va bien. On va commencer la chronique. On va parler une nouvelle fois de Viktor Orban.
Eh oui, une nouvelle fois avec une nouvelle qui inquiète en Europe, hein, puisque la Hongrie et Viktor Orban veulent interdire la marche des fiertés à Budapest, qui est prévue le 28 juin prochain. Une annonce qui, certes, est inquiétante, mais finalement n'est pas une surprise. Comme tu le disais en annonce, il est habitué des faits.
C'est un abonné à nos communautés, ou du moins à la haine de nos communautés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là, sur cette nouvelle?
Ben, en fait, Orban utilise depuis plusieurs années, on le sait, hein, le prétexte de la protection des valeurs traditionnelles pour attaquer la communauté LGBTQIA+. Et cette fois, c'est lors de son discours annuel sur l'état de la nation, le 22 février dernier, qu'il a déclaré « Je conseille aux organisateurs de ne pas prendre la peine de préparer le défilé cette année. C'est une perte d'argent et de temps. Il veut donc interdire un des derniers grands événements de la visibilité queer en Hongrie.
C'est pas la première fois, là. On disait que le gouvernement hongrois s'en prend aux droits de nos communautés.
Oui, son but, hein, il est clair, c'est réduire justement les droits de notre communauté. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle la Budapest Pride existe depuis 2000, depuis maintenant 1997, et elle attire chaque année des milliers de personnes. Hein. Donc, compte tenu de la situation, cette marche, c'est pas seulement un défilé festif, c'est un véritable acte de résistance dans un contexte de répression croissante. Une communauté que le gouvernement d'Orban veut réduire au silence grâce à des lois de plus en plus restrictives.
Et c'est quoi l'argument d'Orban cette fois-ci là pour justifier l'interdiction?
Bah, c'est toujours les mêmes, hein. Ils parlent de protéger les mineurs et de défendre les valeurs traditionnelles, allant jusqu'à qualifier la marche des fiertés de propagande nuisible. Mais derrière cette répression, et selon les opposants d'Orban, se cache une stratégie politique qui est évidente, à savoir satisfaire l'électorat conservateur pour détourner l'attention des graves difficultés économiques de la Hongrie. À noter que les prochaines élections législatives auront lieu en avril 2026, pardon. C'est donc une manœuvre politique, hein, en plus d'une atteinte aux libertés fondamentales, une tentative d'interdiction qui s'inscrit dans un cadre plus large, puisque, on le sait, il a déjà mis en place des lois interdisant notamment la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs, largement inspirées des lois en vigueur en Russie, la Russie de Poutine. Il a également interdit la reconnaissance légale des personnes transgenres et il empêche également l'adoption, par des couples de même sexe. Donc l'interdiction de la Budapest Pride, ça s'inscrit dans une logique de répression accrue de la communauté LGBTQIA+ en Hongrie.
Mais est-ce que cette marche sera réellement interdite?
C'est difficile à le dire, hein, puisque la seule chose qu'on puisse dire pour l'instant, c'est que Victoria Radvani, qui est la présidente de la Budapest Pride, a assuré au magazine Têtu que la marche aurait bien lieu. Elle a déclaré que qu'on soit 100 ou 35 000, on marchera évidemment le 28 juin, nous utiliserons pour cela toutes les voies légales. Selon elle, la marche des fiertés est protégée par la Constitution, par les libertés d'expression et de se rassembler, et elle estime qu'une interdiction de la Pride signifierait que la Hongrie n'est plus véritablement une démocratie. Elle ajoute nous battons, pardon, pas seulement pour la communauté LGBTQIA+, mais aussi pour le droit de tous les Hongrois à pouvoir manifester.
Et on peut parler donc d'une attaque systématique de contre les droits de nos communautés. Et du côté international, est-ce qu'il y a eu des réactions à cette nouvelle?
Oui, assez récemment, hein, puisque plusieurs personnalités politiques et parlementaires européens ont réagi en signant une tribune de soutien à la Budapest Pride. Ce sont plus de 150 personnes pour l'instant qui ont dénoncé cette atteinte aux libertés fondamentales. Elles appellent l'Union européenne à agir, même si pour l'instant, il faut bien le dire, Bruxelles reste assez frileux et prudente. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'avec de telles annonces, la Hongrie s'éloigne de plus en plus des valeurs de l'Union européenne.
Si la Hongrie persiste dans cette voie, qu'est-ce qui pourrait se passer?
Bah, l'Union européenne pourrait prendre des mesures et des sanctions, y compris des sanctions financières. Mais finalement, Orban joue sur l'ambiguïté et il sait que l'Union européenne est divisée sur les questions cuir. Et il se sent poussé des ailes, il faut bien le dire aussi, depuis l'élection de Trump. Cette volonté d'interdiction envoie un message, en tout cas terrible, pour la communauté LGBTQIA+ en Hongrie, qui se sent de plus en plus isolée.
Bon, on va continuer notre voyage à travers l'Europe avec un discours particulièrement touchant prononcé par une élue espagnole sur l'acharnement contre les personnes trans.
Oui, hein, le 21 février dernier, Carla Antonelli, qui est la première femme transgenre élue députée régionale en Espagne, a prononcé un discours très poignant à l'Assemblée de Madrid. Elle réagissait en fait à une tentative du parti d'extrême droite Vox de supprimer une loi protégeant les personnes transgenres.
Et qu'a-t-elle dit donc dans son discours?
Elle a dénoncé l'obsession de certains à questionner l'existence et l'identité des personnes trans. Elle a déclaré notamment, hein, tout le monde veut savoir si nous sommes trans ou non, ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes pas, si nous avons des orgasmes, si nous sommes heureux, si nous nous sommes fait opérer, si nous nous mutilons. Alors son discours a fait le tour des réseaux sociaux et c'est devenu un symbole de la lutte pour les droits des personnes trans, particulièrement remis en cause, on le sait, hein, depuis quelque temps.
Un moment fort. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire justement de Carla Antonelli?
C'est une figure historique, hein, de la lutte pour les droits des personnes trans en Espagne. Elle est née en 1959 à Tenerife et avant de se lancer en politique, elle a eu une carrière d'actrice en s'illustrant notamment dans plusieurs séries télé. Et en 2011, elle est devenue la première femme trans à siéger dans une législature en Espagne sous les couleurs du Parti socialiste ouvrier espagnol. Elle a joué d'ailleurs un rôle prédominant et clé dans l'adoption de la loi espagnole sur l'identité de genre. Il faut savoir que, en Espagne, il y a une loi qu'on appelle loi d'autodétermination qui permet d'avoir un changement d'état civil et de genre simplifié par rapport à la France où il faut passer par un jugement notamment.
Tout à fait, on avait parlé le mois dernier. Le contexte de son discours était particulier quand même, hein?
Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est assez intéressant pour un pays à la base catholique, hein, c'est qu'entre 2012 et 2022, l'Espagne a adopté 19 lois régionales pour protéger les droits des personnes LGBTQIA+, dont 7 lois spécifiquement pour la communauté trans. Mais des partis d'extrême droite, comme Vox, cherchent à revenir sur ces avancées. C'est ce qui a motivé l'intervention de Carla Antonelli, hein. Donc, elle a lancer un message fort en faveur des droits des personnes trans avec une phrase qui a marqué l'intention, puisqu'elle a dit laissez-nous tranquilles pour l'amour de Dieu et que ce soit clair, nous ne retournerons pas dans l'ombre. Un appel vibrant à la dignité, à la reconnaissance des droits des personnes trans, un message puissant, faut le dire, porté par son courage et son engagement et qui prend tout son sens dans le contexte mondial actuel.
On peut rester dans le contexte mondial actuel, mais on va parler peut-être quelque chose qui se passe en France. On se rappellera de Thomas Joly, qui était le directeur artistique des Jeux olympiques de Paris, qui a subi là, des attaques de cyberharcèlement. Un procès qui a eu lieu la semaine dernière. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé? Donc, revenons sur les faits donc, de juillet dernier.
Ouais, donc en juillet dernier, la cérémonie d'ouverture des JO a déclenché une vague de haine via les réseaux sociaux, notamment en raison d'un tableau artistique qui mettait en scène des drag queens. Alors les messages haineux, parfois violents et homophobes, ont conduit Thomas Joly à porter plainte et le procès des 7 prévenus accusés de cyberharcèlement a eu lieu le 5 mars dernier.
Et de quel profil avaient ces prévenus, justement?
Bah, des profils assez divers, hein, puisqu'ils sont âgés entre de 22 à 79 ans, donc toutes les tranches d'âge. Par contre, il y avait un point commun, c'est l'expression impulsive, on va dire, de haine sur les réseaux sociaux. Et parmi eux, un ancien candidat du parti Reconquête d'Éric Zemmour, qui a tenté de justifier ses propos par une soi-disant atteinte à la religion catholique.
Et quelles peines ont été requises?
Alors, le parquet a requis des peines qui vont de 3 mois à 8 mois de prison avec sursis et des stages de citoyenneté. L'objectif est de rappeler que la liberté d'expression a des limites, surtout quand il s'agit de discours haineux en ligne.
Oui, ici au Québec, il y a un groupe qui s'était formé pour dire que la liberté d'expression n'égalait pas la liberté d'oppression. Hein, c'est quand même quelque chose. Mais vous, en France, vous avez une loi qui n'existait pas ici, c'est-à-dire une loi contre ces expressions de haine dans la cyberintimidation, ce qui n'existe pas encore au Canada.
Oui, et qui est de plus en plus utilisé, hein, et notamment avec des associations dont Stop Homophobie, dont je parle assez régulièrement, ou Mousse, qui porte plainte pour tout ce qui est propos haineux en ligne notamment.
Donc, c'est un bon rappel de la responsabilité en ligne, mais c'est pas tout. On va parler d'une belle histoire pour conclure. J'aime bien ça que tous mes chroniqueurs prennent la peine de me trouver une belle histoire pour conclure nos chroniques. Alors, on va parler de solidarité en Espagne après un meurtre homophobe à La Corogne.
Oui, alors le début de l'histoire, malheureusement, n'est pas aussi heureux que la fin. Ce qu'il faut savoir, et j'en avais parlé ici, puisque le procès a eu lieu en janvier, en juillet 2021, Samuel Lewis, a été tué dans les rues de La Corogne, en Espagne, en raison de son orientation sexuelle. Mais 2 migrants sénégalais, qui s'appellent Ibrahima Diack et Magat Ndiaye, ont réagi immédiatement et ont tenté de lui porter secours. Malheureusement en vain. Un geste de solidarité qui a été salué par les autorités locales, hein, puisque la ville de La Corogne les a fait fils adoptifs, donc c'est un peu citoyen d'honneur, hein, pour La Corogne. C'est une distinction honorifique.
Un acte héroïque, je devrais dire, malgré la modestie de ces deux hommes qui ont agi sans chercher de reconnaissance.
Oui, pour eux, hein, d'après leur déclaration, ils ont dit qu'en fait, ils avaient fait leur devoir. Hein, donc, ils ont incarné les valeurs de solidarité et de résistance à la violence. Et leur geste a été un modèle de courage et d'humanité. Il a marqué un tournant dans la lutte contre l'homophobie en Espagne. C'est un vrai pied de nez, hein, pour tous ceux qui associent souvent migrants et délinquance et crimes en tout genre. On voit que, la solidarité existe, quelle que soit la nationalité et les origines des personnes.
Il nous reste un petit peu de temps, Christophe. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de ces discours d'extrême droite là, qui existent ici au Canada et aux États-Unis. Comment ça, les gens réagissent vis-à-vis ce qui se passe avec Donald Trump et les communautés queer chez vous?
C'est assez varié. Alors, sur les réseaux sociaux, notamment, hein, on le voit, il y a énormément de commentaires haineux, hein, j'en parlais, donc ils se lâchent, notamment sur Facebook, hein, puisque maintenant, là, il n'y a plus de modération du tout des propos. Par contre, ce qui est intéressant, et ça, j'ai remarqué ça depuis l'élection de Trump, alors, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, il y a beaucoup plus de personnes qui prennent la parole face à ces discours haineux et prêchent la bonne parole pour nos communautés. C'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que les haters n'ont pas l'habitude d'être repris sur les réseaux et ils se sentent un peu perdus. Moi, j'avoue que ça m'amuse un peu.
Ah oui, ben c'est la même chose ici. Au Canada, il y a quand même beaucoup de campagnes de boycott. Je vais en parler éventuellement à l'émission. Les gens de nos communautés maintenant annulent ou refusent de se rendre aux États-Unis en vacances. Est-ce qu'on voit la même chose en France ou en Europe?
Alors, c'est assez récent. Je sais que vous avez boycotté pas mal de produits américains,
Ben, ils nous
notamment
livrent
dans
une
les
guerre commerciale,
supermarchés.
évidemment, soit qu'on n'a pas le même choix.
Voilà. Alors, sur les voyages en eux-mêmes, pour l'instant, je n'ai pas remarqué ou lu beaucoup d'informations là-dessus. Par contre, et ça, c'est assez récent, puisqu'ils en ont parlé ce matin sur les chaînes info, il y a 2 Français sur 3 qui se disent prêts à boycotter les produits américains, compte tenu de tout ce qui se passe et du discours, et des discours haineux de Trump, Musk et toute la clique.
Mais en tout cas, tout ça, c'est bien intéressant. Nous, on se reparle le mois prochain, Christophe. Merci beaucoup.
Mais je t'en prie, je te souhaite une bonne soirée. À très
Merci.
bientôt. Au revoir.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Une enquête à la fois intime et collective qui explore les conséquences sur la communauté gay de l'utilisation massive depuis 15 ans de l'application de rencontres sexuelles Grindr, ou Grindr, dépendant d'où on est, de quel côté de l'Atlantique qu'on est. Aussi populaire donc que controversé. Le journaliste Thibault Lambert vient de publier chez JC La Tête un livre qui s'appelle Ce que Grindr nous a fait de nous. Bienvenue à l'émission.
Merci, merci, bonjour à tous.
Oui, alors on a cette tradition ici, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, de demander aux gens quels pronoms et quels accords ils utilisent, surtout quand c'est la première fois qu'on fait une entrevue avec eux.
Le pronom il,
C'est bon.
voilà,
D'accord.
simplement.
Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce que Grindr a fait de nous?
Alors, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que le constat déjà très personnel, arrivé à l'âge de 26-27 ans, que Grindr avait été finalement le fil rouge de toute ma vie sexuelle et affective durant ma vingtaine, et que c'était pas juste une application comme ça, j'étais un peu entré en homosexualité par elle, ce qui en fait constitue une nouveauté, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis un peu le témoin de cette première génération. Je l'ai installée quand j'avais 17 ans, en 2012. Donc voilà, je suis vraiment le témoin de cette génération qui est vraiment entrée en homosexualité, qui a commencé sa vie avec les applis et cette appli massive, hégémonique, qui est Grindr, voilà, je le dis à la française, moi. Mais en tout cas, voilà. Et ce que je voulais faire, c'était raconter l'usure de Grindr, quelque chose que beaucoup de gens ressentent, mais dont on parlait finalement assez peu. Enfin, en tout cas, je vois ici en France, il n'y avait aucun livre dessus. Et voilà, moi, je voulais raconter qu'à partir de 25 ans, je commençais à me lasser de ces rencontres, que aussi cette application avait eu, je pense, un impact sur moi, sur ma manière d'appréhender les rencontres, de voir la sexualité, du rapport que j'entretenais avec les hommes, qui était un rapport fait à la fois de désir, mais aussi de beaucoup d'adversité, de mise en concurrence. Voilà. Et donc, en fait, moi, j'ai interrogé mes propres pratiques et je voulais répondre à des questions simples qui étaient pourquoi l'appli est là, pourquoi est-ce qu'on est tous dessus, qu'est-ce qu'on fait dessus, et pourquoi, même si en fait elle est pénible à certains moments, pourquoi est-ce qu'on finit tous toujours par y revenir?
Ton enquête mêle donc des témoignages personnels, tu viens de le dire, et des analyses sociologiques. Comment as-tu construit cette approche?
Alors moi, je pense que l'approche personnelle, c'est-à-dire mon expérience qui sert un peu de fil rouge à l'ouvrage, je pense que c'était important parce que déjà ça permettait, c'était une démarche un peu de sincérité, c'est-à-dire pour montrer que je suis pas neutre, que je suis vraiment impliqué dans l'histoire que je raconte, que mon histoire personnelle, elle sert aussi de matière à réflexion, en fait, finalement, voilà, que j'ai vécu comme les bons côtés de Grindr, comme les plus mauvais. Et du coup, je pars de mon histoire pour avoir, voilà, certains constats, certaines expériences. J'ai interrogé d'autres utilisateurs pour, en fait, montrer qu'il y a, même s'il y a des expériences communes de Grindr, il y a aussi une pluralité de parcours, quoi. Et de montrer que, voilà, avoir aussi d'autres témoignages, ça permettait de montrer ce qu'on a en commun, mais aussi ce qu'on a de différent. Voilà, bien faire comprendre, et c'était normal, que mon parcours, il n'est pas semblable à d'autres, parce que voilà, moi, je suis un homme qui est cisgenre, qui est blanc, qui est gay. Donc voilà, c'était aussi important de faire parler des témoignages de personnes trans, de personnes racisées, de personnes séropositives pour le VIH aussi, parce que c'est des vécus qui sont aussi différents sur l'application. Et je voulais aussi faire parler justement des chercheurs, des universitaires et des professionnels du soin, des professionnels, des médecins, médecins communautaires, des psys, des sexologues, pour justement que ces personnes-là, ces experts, apportent de la perspective à mon vécu. Et en fait, tout ça, ça vise à un but, c'est que derrière les vécus que je raconte dans le livre, il y a un peu une sorte de remise en contexte, de genre, bah voilà, Grindr, en fait, c'est pas nouveau, ça a rien révolutionné, et ce qu'on ressent dessus, c'est un mal qui n'est pas forcément nouveau ni engendré spécifiquement par l'application, mais qu'il y a, voilà, un mal-être, une manière de se rencontrer qui s'inscrit dans une histoire de la rencontre entre hommes qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus large et qui n'est pas née en 2019 avec l'apparition de Grindr.
Est-ce qu'on pourrait dire donc que Grindr pourrait peut-être amplifier ces espèces de rapports entre nous, des rapports qui sont peut-être de domination patriarcale, raciste, classiste au sein de notre communauté, de nos communautés en fait?
Tout à fait. Moi, c'est un peu le constat que j'ai fait dans ce livre et dans mon enquête, c'est que ce que je dis dans le livre, c'est que Grindr, c'est un peu le miroir grossissant des logiques qui sont à l'œuvre, selon moi, dans la communauté gay et plus largement aussi dans la masculinité, en fait. C'est-à-dire, ne serait-ce que voilà, la mise en concurrence des corps, le fait que si on a certains attributs qui se rapprochent de la masculinité, de la virilité qui est vraiment valorisée, exacerbée, enfin mise en avant dans nos sociétés occidentales, eh ben on bénéficie d'un certain pouvoir sur l'application par rapport à d'autres. Et ça, c'est pas nouveau en fait. C'est-à-dire que les mécanismes de domination, les rapports de pouvoir, ils existaient bien avant Grindr dans l'homosexualité masculine. Sauf que ils nous sautent en pleine figure sur Grindr. Pourquoi ? Parce que Grindr, c'est un espace où déjà on n'a jamais été aussi nombreux, nombreuses sur une seule interface. C'est-à-dire qu'il y a quand même 13,5 millions d'utilisateurs qui se connectent chaque mois sur Grindr. Ça n'était jamais arrivé avant. Il y a vraiment cette plateforme mondiale. Et il y a aussi le fait que comme tout le monde a des recherches et essaie de faire le tri en fait dans les recherches, ce qu'a généré Grindr, c'est en fait une explicitation des critères. C'est-à-dire que le langage est très important. Il faut détailler tout ce qu'on cherche de manière très crue, de manière voilà, en se débarrassant de politesse. C'est ce qui fait que ce langage décomplexé, finalement, presque, on va dire, politiquement incorrect, fait que, finalement, les violences, les rapports de pouvoir, ils éclatent au grand jour.
Rapidement, est-ce que au-delà de ces violences que les personnes vivent en raison de leur identité, peut-être qu'ils ne font pas dans le critère de masculinité leur désiré, etc., au-delà de ces violences-là, qui sont quand même assez importantes, il y a aussi des violences sexuelles, des violences physiques. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit chez Grindr? Est-ce que Grindr a exacerbé ces violences-là aussi?
Alors ça, c'est une question qui est très difficile, mais pourtant cruciale, la question des violences sexuelles, parce que je pense qu'on est encore à une période où on commence à peine à évoquer les contours de la question de Grindr et du consentement. C'est-à-dire que il y a une question que je pose en creux dans le livre, et je pense que c'est un appel à une réflexion beaucoup plus grande, c'est: est-ce qu'on a toujours consenti à tout dans nos rencontres Grindr et dans les plans qu'on, dans les rencontres, dans les hookups qu'on faisait avec les gens, parce que voilà, moi je m'appuie sur le travail d'un sociologue qui a fait en France tout un travail sur l'usage de l'application, qui remarquait que quand même dans le cadre d'un plan d'une rencontre Grindr, juste pour avoir un rapport sexuel, finalement, le consentement, la possibilité de revenir sur ce qui avait été négocié au préalable pendant les messages, cette possibilité-là, elle s'amenuise, en fait. On n'ose pas dire non, finalement. On n'ose pas dire qu'on a changé d'avis. Et aussi, il y a aussi, pendant le rapport, parfois, il peut y avoir des pratiques qui surviennent, qui n'ont pas été, en fait, négociées en amont. Est-ce que, comme ça fait partie du script, est-ce que si ça ne fait pas partie du script, on peut considérer ça comme quelque chose de non consenti? Voilà, et ça, c'est une question. Et il y a aussi la question des plus jeunes qui arrivent sur l'application de rencontre. Les plus jeunes, on le sait, et on commence à le savoir, ils ont peu d'expérience. Quand ils ont 17, 18, 19 ans, ils arrivent sur l'application, ils sont beaucoup sollicités, notamment par des plus vieux, des plus de 35 ans, qui, eux, ont une expérience sexuelle. Donc voilà, il y a aussi... mais ça, c'est pas nouveau, encore une fois, mais ça éclate vraiment au grand jour sur Grindr, c'est-à-dire qu'il y a une asymétrie d'expérience qui fait que je pense que les plus jeunes sont plus exposés à une forme de violence possible, de violence sexuelle, sauf que, et c'est pas nouveau, je pense, en fait, cette socialisation par la sexualité, c'était quelque chose qui a toujours été très présent chez les hommes gays, mais en fait, du coup, comme ça a toujours été très présent, on n'a pas vraiment remis cette pratique-là, ces phénomènes-là en question. Et je pense que là, Grindr est une invitation à peut-être essayer de se poser la question, parce que voilà, il y a eu le MeToo, il y a eu un MeToo dans plein de domaines. Il y a eu un MeToo gay en France qui a explosé aux alentours de 2021. Et en fait, finalement, les témoignages autour de Grindr revenaient pas beaucoup, comme si finalement les personnes qui avaient été victimes de violences sexuelles à travers des rencontres Grindr se sentaient peut-être pas forcément légitimes à parler ou se considéraient pas forcément comme des victimes en tant que telles.
Wow. Alors, ce livre s'appelle « Ce que Grindr a fait de nous ». C'est publié chez J.C. Lattès en France. Je pense que ça va être éventuellement disponible ici au Canada. Et Thibault Lambert, journaliste, merci d'avoir été avec nous.
Alors, juste pour expliciter, le livre sera disponible à compter du 31 mars. J'ai vérifié sur les grandes librairies ici à Montréal, au Québec. Donc, le livre « Ce que Grindr a fait de nous » ou « Ce que Grindr a fait de nous », selon qu'on est français ou canadien ou québécois. Donc, une enquête dans laquelle l'auteur s'interroge sur les paradoxes de l'application de rencontre pour hommes gays, bisexuels et queer. Puisqu'on parle de Grindr, puisqu'on parle d'une application des États-Unis, bientôt à l'émission, nous allons faire une discussion, nous allons entreprendre une discussion sur tous ces boycotts qui se sont organisés depuis l'élection de Donald Trump et depuis ses décisions aussi d'imposer des droits tarifaires sur à peu près tout ce qu'on produit, et aussi sur ces nombreux décrets anti-queer. À la chronique, la semaine prochaine, la chronique que nous allons faire sur les voyages, on va parler justement de ces boycotts, le fait que les gens annulent leurs vacances aux États-Unis. Mais on va parler de choses encore plus loin. Alors, si jamais il y a des sujets de boycott ou des produits que vous désirez boycotter ou que vous pensez qu'on devrait boycotter des États-Unis ou pas, hein, ça se peut que vous ne soyez pas d'accord avec ça, n'hésitez pas à nous écrire à heurciel, en un seul mot, en minuscule, heurciel@gmail.com. Et puis, ben, nous, on continue.
Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heurciel@gmail.com, heurciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @dmchabotauteur, et sur LinkedIn, Denis trait d'union, Martin trait d'union, Chabot.
La semaine prochaine, nous allons parler d'une étude qui va sortir très bientôt chez Interling qui démontre les grands problèmes de santé mentale qu'on retrouve chez les personnes des communautés de LGBTQIA+. Alors, ça sera le premier sujet d'entrevue la semaine prochaine. D'ici là, ben, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 107 du 10 mars 2025. Merci à toute l'équipe, Godéric Trob et Marie Massé à la recherche. Merci à l'équipe de Canalem, Maurice Bolduc à la mise en onde, Jean-Sébastien Laliberté, notre chef de diffusion, Philippe Lapointe, directeur d'antenne, et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vues et Voix de Canalem. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Merci d'être là.